graine. Bon, ben, c'est ça un petit peu pour vous voir. Oui, c'est ça, on parle de combat, on parle de travail à accomplir, on parle de choses grandes pour le Seigneur. Mais une chose qui est importante, il y a des directions que le Seigneur nous donne. Puis, c'est sûr, quand on parle de tradition, c'est un mot qu'on n'aime pas tellement, les traditions. Dans la génération qu'on vit, on rejette les traditions. Mais il reste que les traditions, c'est pas... Ça, le mot tradition, tout ce que ça veut dire, c'est quelque chose qui a été transmis. Puis les traditions, c'est sûr que c'est la source de la tradition qui est importante. Si la source n'est pas bonne, ben là, la tradition n'est pas bonne. Mais si la source de la tradition est bonne, ben c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose qu'on a besoin. Si on lit dans 2 Timothée, au chapitre 3, verset 14, puis on a parlé de ça, il dit, au verset 14 de 2 Timothée 3, il dit, « Toi, demeure. » Parce que Paul, dans la deuxième épître à Timothée, il mentionne les derniers temps, les temps difficiles. C'est des temps où il va y avoir des gens qui vont s'égarer. C'est des temps où il va y avoir beaucoup de troubles, de confusion, parce qu'on sait que celui qui s'en vient, c'est lui qui va semer la confusion pour que les gens ne savent plus où donner la tête. Mais Paul, il parle toujours à des conditions qui vont être à ce moment-là, mais il dit « toi ». Donc, il s'en va vers l'individu, vers Timothée, il lui dit « Timothée, toi, fais pas comme eux autres, toi demeure », comme il dit ici dans les versets 14, « Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc ici, Paul, il dit à Timothée, tradition, il parle du dépôt. Garde le bon dépôt de la foi. Donc Paul ici est en train de parler de quelque chose, un dépôt, c'est comme une intendance. C'est comme quelque chose qui nous a été remis quand on va à la banque, que vous avez travaillé toute la semaine. Ben moi, je ne travaille plus, là, mais quand vous avez travaillé toute la semaine, puis vous allez avec votre chèque de paye, à cette heure, ça se fait tout par transfert, mais que vous le déposez à la banque, vous savez que c'est fiable, cette banque-là. Là. Parce que vous avez travaillé toute la semaine, puis vous mettez un dépôt à la banque, mais vous attendez que quand vous allez leur demander, ils vont être encore là. Puis ils vont pouvoir vous le produire. C'est dans ce sens-là que Paul y parle, de garder le bon dépôt. Les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Donc, c'est de vérifier dans les traditions qu'on a. On a des traditions, puis moi, je remercie le Seigneur pour les traditions. Paul, il disait, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi et des instructions que je vous ai données. Les instructions, le mot, c'est tradition encore. Puis, c'est des choses, puis moi, je suis content d'avoir des traditions. Mais l'importance d'une tradition, c'est de la vérifier à la lumière de la parole de Dieu. Puis quand on la trouve dans la parole de Dieu, ben moi j'y tire. Puis je suis prêt à combattre pour cette tradition-là. Donc c'est des bonnes choses. Puis ce matin, qu'est-ce que je voulais partager avec vous? On va aller dans 2 Chroniques au chapitre 29. On parle de réveil, puis c'est ce qu'on veut, c'est l'intention un peu de la conférence ici, c'est qu'on voit un réveil. Vous savez, on arrive au temps de la fin. On arrive à un temps où les hommes vont s'égarer, Paul nous le dit. Il va y avoir des temps difficiles, les hommes seront égoïstes, fanfarons, hautains, rebelles à leurs parents, parce qu'on voit ça aujourd'hui. On voit tout ça aujourd'hui. Mais quand même, on a la confiance qu'avant que la tribulation arrive sur la terre, bien, ça se peut que, puis on voit vers les temps de la fin, le Seigneur se tourne vers les individus parce qu'il semble que la masse s'égare. Puis il se tourne vers les individus comme Paul le fait pour Timothée. Il dit, toi donc, puis il revient toujours à lui personnellement, toi donc, ça va être comme ça, mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Puis un réveil, ben, on en voit dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que je veux qu'on aille dans 2 Chroniques au chapitre 29, on va lire les versets 1 à 10, on ne lira pas tout le contexte, mais on va lire cette partie-là pour se mettre un peu dans la situation. C'est un réveil, puis c'est désirable, mais vous n'oubliez jamais... qu'un réveil, tous les réveils qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est quand on a pris la parole de Dieu au sérieux. Quand le peuple de Dieu prend la parole de Dieu au sérieux, ça va faire un réveil. Parce que la parole de Dieu, c'est le réveil. Dans 2 Chroniques au chapitre 29, Ici, c'est Ézéchias qui devient roi. Il y a 25 ans, il devient roi. Mais qu'est-ce qu'il a vu auparavant? Ce n'était pas tellement beau. Mais il dit ici, Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abija, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Et il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qui l'assemblaient dans la place orientale. Et il leur dit, « Écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi, la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Il les a livrés aux troubles, et à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. » Donc ici, on voit qu'il prend conscience de la situation. C'est un temps de déclin. Puis je pense qu'on peut être d'accord aujourd'hui qu'on est en temps de déclin. Or, on ne parle pas de... Il peut y avoir des grands nombres qui se réunissent, mais est-ce qu'on est vraiment en temps de réveil? Est-ce que le Seigneur a la première place? Est-ce qu'on est tous les regards tournés vers lui? Mais la preuve, c'est qu'on est tous... Il y a beaucoup de divisions. Il y a beaucoup des gens qui s'en vont dans toutes les directions. Ça, ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous rassemble. Il nous rassemble où? Autour d'une personne. Le bon berger, le Seigneur Jésus-Christ. Si on détourne de lui les regards, c'est certain qu'on va s'égarer. On doit se tourner vers le Seigneur Jésus. Puis c'est ce qu'Ézéchias fait. Il se tourne vers l'Éternel. Parce que ses pères s'étaient détournés, puis la situation qui était présente à ce moment-là, c'était de l'égarement, on faisait n'importe quoi au nom de Dieu même. Puis le Seigneur a amené un châtiment sur Jérusalem. Jérusalem, la ville du grand roi. Jérusalem, la ville où Dieu avait choisi de mettre son nom. Pourquoi? Parce qu'il voulait que les nations se centrent sur ce centre-là qui est Jérusalem pour les bénir. Donc, ici, on voit Ézéchias, il était dans un déclin. C'était un déclin, mais vous savez, il y a quelque chose de bon avec un déclin. C'est de la meilleure place pour avoir un réveil. Quand il fait noir, là, on allume une petite lumière. On est allé dans la mine à Murdochville une fois, puis on avait toutes des lampes sur notre chapeau. Puis à un moment donné, le guide il a dit « Éteignez toutes vos lumières. » Puis quand on a tout éteint nos lumières, là, ben on ne voyait absolument rien. Il appelait ça la noirceur complète. Puis on ne voyait absolument rien. Mais en allumant nos lumières, ouf, ces petites lumières-là semblaient éclairer tellement. Puis c'est ça, dans un temps de déclin, là, c'est le meilleur temps pour avoir un réveil. Mais comment ça va se faire? Ça va se faire de la façon que Ézéchias le fait ici. Ézéchias, il avait vu le déclin, sûrement, parce que son père avait été un des grands artisans du déclin. Il s'était détourné complètement de quoi? Il s'était détourné du culte rendu à l'Éternel à Jérusalem. C'est ça qu'il avait fait. Regardez dans le chapitre 28, juste un chapitre en avant. On va regarder un petit peu ce qui s'était passé. Puis, je ne sais pas quel âge qu'il avait, Ézéchias, mais là, il avait 25 ans quand il devient roi. Donc, il a vu ces choses-là arriver. Puis, je ne sais pas ce qui se passait dans son cœur à ce moment-là. Lui, s'il était attristé, sûrement, parce qu'on va voir qu'il prend conscience de ces choses-là. Verset 19, il dit, car l'Éternel, chapitre 28, verset 19, il dit, car l'Éternel humilia Juda à cause d'Achaz, roi d'Israël, qui avait jeté le désordre. C'est ça qu'on voit aujourd'hui, il y a du désordre. Le désordre dans Juda. Juda, c'est la tribu qui était supposée de représenter l'Éternel. Et commis des péchés contre l'Éternel, Tilgath-Pilnéser, roi d'Assyrie, vint contre lui, le traita en ennemi et ne le soutint pas. Il avait demandé pour avoir de l'aide de lui, mais il ne l'a pas soutenu. Car Achaz, regardez bien ici, Achaz dépouilla la maison de l'Éternel, la maison du roi, et celle des chefs pour faire des présents au roi d'Assyrie. Pour plaire au roi d'Assyrie, là, il a enlevé toutes les choses de la maison de Dieu, là où le culte à Dieu était rendu. Puis il dit, et qu'il ne lui fut, ce qui ne lui fut d'aucun secours. Ça n'a pas aidé. Quand on se détourne du Seigneur, là, puis du culte qui doit être rendu à l'Éternel, au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Ça va être utile à rien, aucun secours. Pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel, lui le roi Achaz. Puis Ézéchias, il voyait ça arriver, ces choses-là. Il sacrifia au dieu de Damas. C'est pas triste, ça, d'entendre ça. Il sacrifia au dieu de Damas qui l'avait frappé. Et il dit, « Puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. » Mais ils furent l'occasion de sa chute et de celle de tout Israël. Achaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et il mit en pièces les ustensiles de la maison de Dieu. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel. Il se fit des autels à tous les coins de Jérusalem et il établit des hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses pères. Donc, c'est triste de voir ça. Mais vous savez, on voit ces choses-là arriver aujourd'hui. On voit des gens se détourner de la simplicité de le culte rendu à Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, quand il nous parle du Seigneur Jésus-Christ, « Ayant les regards sur Jésus, le chef, celui qui a initié la foi, et le consommateur, celui qui va l'amener à sa consommation. » Ben, il faut aujourd'hui, dans ces derniers jours, garder les yeux sur le Seigneur Jésus. Si on ne garde pas les yeux sur le Seigneur Jésus, puis la façon, les instructions que lui nous a données dans sa parole, attendons-nous pas d'avoir un réveil. Ben, c'est ça qu'on a besoin, de se tourner vers lui. Ça, c'est vraiment important. Donc, quel est l'état de nos assemblées aujourd'hui? Il faut arrêter, puis se demander qu'est-ce qui se passe. Où on en est rendu? Ça, c'est vraiment important. Mais il semble que, en tout cas, qu'est-ce que moi je vois, si ma vision est correcte, je vois des gens, des fois, qui suivaient le Seigneur. Je vois des gens avec qui on marchait ensemble vers la maison de Dieu. On marchait ensemble pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Puis à un moment donné, à cause de toutes sortes d'idées d'hommes ou de doctrines même, on se détourne du Seigneur Jésus. Puis on voit même des familles brisées. Des familles qui étaient bien, qui allaient bien dans le Seigneur, qui sont brisées. Puis c'est pourquoi que toutes ces choses-là arrivent. Des divisions. Paul a dit aux Corinthiens qu'ils ont des divisions. Le fait qu'ils ont des divisions, c'est une preuve qu'ils sont charnels. Qu'ils sont dirigés par la chair au lieu d'être dirigés par l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu va toujours nous rassembler autour du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le principe même. Même j'étais attristé d'entendre quelqu'un dire qu'on nous a dit que les Écritures étaient christocentriques, ce qui veut dire centrées sur le Christ, puis que ce n'était pas vrai. Je n'en revenais pas que quelqu'un dise ça en public, parce que je pense que le Seigneur Jésus, il ne savait pas ces choses-là, parce que lui, sur le chemin d'Emmaüs, avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, il a pris dans toutes les Écritures les choses qui le concernaient. Amen. Puis il les a présentées aux disciples, puis quel a été l'effet de ces deux hommes-là qui s'en allaient de Jérusalem, qui étaient attristés dans le chemin, puis ils ont dit, après que le Seigneur a pris les Écritures, dans toutes les Écritures, les choses qui le concernaient, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, pendant qu'en chemin, il nous disait ces choses, il nous ouvrait les Écritures. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, là, il avait rentré parce qu'il commençait tard, puis ils ont arrêté de souper, puis là, bon, on va se coucher après. Ils ne sont pas couchés. Ils se sont levés à l'heure même, puis ils sont retournés à Jérusalem. Jérusalem, c'est la place. C'est là que l'Éternel avait décidé de mettre son nom. Ils sont retournés à Jérusalem, puis ils ont dit quoi, le message? Le Seigneur Jésus est vraiment ressuscité. C'est ça le message. Regardez dans le livre des Actes, là, puis ceux qui ont fait des prédications, les apôtres dans le livre des Actes, qu'est-ce qu'ils ont prêché? Ils ont prêché Jésus-Christ, et Jésus-Christ ressuscité, puis maintenant, par son nom, le pardon des péchés est prêché, à cause de son œuvre qu'il a accomplie. Donc, c'est vraiment merveilleux, mais, vous savez, il faut rester attaché. Pas de dire, ah, ben ça, c'était ceux qui sont venus avant nous autres qui nous ont dit ça. Ben, s'ils nous ont donné le dépôt, le bon dépôt qu'eux avaient reçu. Comme Paul, Paul, il l'avait reçu du Seigneur, le dépôt. Il transmettait à Timothée. Puis en le transmettant à Timothée, il disait, Timothée, transmets-le à des hommes fidèles qui vont aussi le transmettre à d'autres. Vous savez, ça fait 2000 ans que ça marche comme ça. Puis nous autres, dans notre génération, on va dire, oh non, nous autres, on a trouvé quelque chose de meilleur. Mais moi, je n'en vois pas de meilleur. Je ne trouve pas de choses qui peuvent être meilleures que ça. Ça, c'est vraiment important. Mais quand on revient à Ézéchias, je suis certain qu'Ézéchias était attristé. Est-ce que vous êtes attristé? Ça commence là. Si on est heureux dans la situation qui est là, ben, ça ne nous donne rien d'avoir cette conférence-là. Continuons, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais si nous sommes attristés, moi je suis attristé. Si on est attristé de la situation actuelle, ah, mais ça, c'est pas tellement grave, ça, c'est pas grave, on tolère, on laisse aller les choses. Ben moi, je me dis, si on va faire un club social, moi, je vais retourner poser du jus proc. C'est ça que je faisais auparavant. Je commence à être vieux pour ça, mais quand même. Mais on veut bâtir sur la parole de Dieu. On veut tenir ces choses-là comme étant importantes. Puis, vous savez, Ézéchias, il était attristé. C'était son père. Hein, on dit « honorer vos parents ». Honore ton père et ta mère. Mais il était attristé de ce que son père avait fait. Il avait fermé les portes de la maison de l'Éternel. Il avait tout enlevé la fourniture de la maison de l'Éternel. Il a donné ça à un roi qui n'est même pas venu en secours. Puis il a offert à des dieux de ces pays-là parce que son Dieu n'était pas assez bon. Mon beau-frère, il me disait une fois, ouais, il dit, vous êtes vraiment, moi puis ma femme, ma sœur, il dit, on disait que tu es vraiment béni quand tu travailles sur ta maison. Ben, j'ai dit, je ne suis pas béni, moi. Il dit, non. Ben non, lui, il disait, je suis chanceux. Moi, j'ai dit, non, moi, je suis béni. Ah oui, il dit, tu es béni des dieux. J'ai dit, non, il y a un cœur. Ceux qui n'ont plusieurs, c'est parce qu'ils ne sont pas bons. Mais nous autres, on a un seul Dieu, puis on n'en veut pas d'autre. Parce qu'il suffit pour tous nos besoins. Mais lui, Ézéchias, quand il a vu ça, il a dit, ouais, c'est triste la situation. Là. Mais là, il vient au pouvoir. Tout d'un coup, son père meurt, puis c'est lui qui devient au pouvoir. C'est lui, il est rendu à 9 ans, là. Puis il a 25 ans, c'est un jeune homme, il a 25 ans, mais il voit la situation, puis regardez, il dit, un peu comme l'enfant prodigue, là. Un enfant prodigue, quand il était à nourrir les pourceaux, puis il aurait voulu se nourrir, il a pensé dans sa tête, il a dit, même les serviteurs de mon père, là, sont mieux traités que moi je suis traité ici. Puis il dit, je vais m'élever, puis je vais retourner vers mon père. Il disait ça, je me lèverai, j'irai vers mon père, dans Luc 10, 15 au verset 18. Ouais, ça s'arrête là? Non, ça ne s'arrête pas là. Si ça s'avait arrêté là, ben, il aurait resté là. Il aurait resté avec les pourceaux. Quand il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, puis dans le verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Il se leva et alla vers son père. Ça n'a pas arrêté là, non? C'est bien beau de regarder la situation puis de dire, ben là, c'est triste, puis ça ne va pas bien, puis alors, je suis vraiment attristé de ça, puis il faudrait faire quelque chose, puis on ne fait rien. Mais, vous savez, moi, dans mon cœur, cette conférence, c'est qu'on puisse en revenir, puis se lever, puis commencer à construire de la façon que le Seigneur nous a donné, pas sur des moyens d'homme puis de la sagesse humaine, mais fondé sur la parole de Dieu. C'est ça qui est important. Donc, il a pris conscience. Regardez au verset 3, il dit, la 60e année de son règne, non, la première année de son règne, au premier mois, il ne prend pas de temps, il rentre au pouvoir, puis il change. Vous savez, nous autres, les gouvernements, ça change, mais des fois, ça ne change pas grand-chose. Mais lui, il arrive au pouvoir, puis quand il arrive au pouvoir, la première année, il dit, ouais, l'année prochaine, là, on va essayer d'arranger ça. Non, la première année de son règne, le premier mois de son règne. Il n'y a pas avec ça. C'est le temps d'agir. Puis aujourd'hui, c'est le temps d'agir. Le Seigneur revient. Puis même, il y a des gens qui nous disent aujourd'hui que l'Église ne sera pas enlevée avant la tribulation. Mais moi, je leur dis, si vous attendez l'homme de péché, moi, j'attends l'homme sans péché. Puis c'est lui la solution qui va nous donner la solution à notre situation. Mais en attendant, on veut le servir. Puis il a pris conscience de la situation, puis il s'est élevé. Regardez au verset 6. Car nos pères ont péché. Donc, il évalue la situation. Nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel. C'est là que le Seigneur habitait au milieu de son peuple. il dit, de l'Éternel, et ils lui ont tourné le dos. Puis regardez au verset 7, il dit, ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes, ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Mais qu'est-ce que vous pensez que ça va produire? Qu'est-ce que ça va faire qu'on abandonne l'Éternel comme ça? Qu'est-ce que ça va faire qu'on abandonne sa façon à lui qui nous a, il les a instruits quand Moïse y avait été dit de construire le tabernacle, il lui avait été dit de faire attention, de construire vraiment selon les détails du modèle qu'il avait vu sur la montagne. Puis quand Oliab, puis eux, Bezalel travaillait à la construction du temple, Moïse surveillait, puis il fallait que c'est toujours dit, c'était accompli comme Moïse, comme le tabernacle, ouais. C'est quoi j'ai dit?
Le temple.
Ah ben, ouais, le tabernacle, puis éventuellement, ouais, ça a devenu le temple. Mais oui, tu as raison. Merci, frère. C'est le tabernacle. Donc, il dit toujours que quand il construisait, c'était toujours fait selon ce que Moïse avait vu sur la montagne. Pas selon ce que... Il y a des belles idées d'hommes aujourd'hui, il y a de la business qui marche comme ça, mais l'Église du Seigneur Jésus-Christ marche selon les instructions de sa tête. C'est le Père qui l'a donné comme chef suprême à son Église, puis c'est lui qu'on doit écouter. C'est vraiment important qu'on écoute lui. Donc, il a pris conscience de ça, puis qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Au verset 8, « Aussi la colère de l'Éternel a-t-elle été sur Juda et sur Jérusalem, et les a livrés aux troubles, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. » C'est ça, il a pris conscience, il dit, « Regarde, à cause du fait qu'on s'est détourné de l'Éternel, on s'est détourné de ses instructions, on a fermé le lieu où le culte était rendu à l'Éternel. Ben, regardez notre condition aujourd'hui. C'est vrai. Tout le peuple de Juda était dans une grande désolation. Les ennemis dominaient sur eux. C'était le trouble qui régnait parmi eux. C'est ça qui a pris conscience ici. Mais vous voyez, lui... Et on doit prendre conscience de la situation, puis, vous savez, de laisser aller les choses. Puis c'est ce qu'on a vécu pendant un certain temps, on a vécu un laisser aller. J'ai une citation ici que je trouve quand même intéressante. Il dit, « À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. À force de tout accepter, on finit par tout approuver. » Il dit, « Avance sur ta route. » Car elle existe que par ta marche. Hein? S'il y a une route qu'on marche, parce qu'on est en train de marcher, qu'on avance sur cette route-là. Puis regardez, il dit, il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d'un pas ferme. Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d'un pas ferme. C'est bien beau. Puis aujourd'hui, c'est, d'un sens, on nous dit, ben regardez, ça marche. Il y a des méga de cherches aujourd'hui. Puis, il y en a, ceux qui veulent suivre le Seigneur, ça ne veut pas dire qu'ils sont nombreux. On ne sait pas qu'on aime à être peu. On aime, un réveil va amener des gens, mais de la bonne façon. Puis, c'est important. Mais si on fait juste, comme il dit, si qu'on tolère, on finit par l'accepter. Puis, quand on l'accepte, on finit par l'approuver. C'est un déclin, ça. C'est un déclin. Les choses qui sont mauvaises, si on les tolère, on finit par les accepter. Puis, quand on les accepte, on finit par les approuver. Fait qu'il faut rester ferme pour le Seigneur. Ça, c'est important. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, il dit au verset 4, « Il fit venir les sacrificateurs et les lévites qui l'assemblaient dans la place orientale. » Donc, il fait venir les sacrificateurs. Pourquoi les sacrificateurs? C'est lui le roi. C'est lui qui dirigeait le peuple. Mais il savait une chose, c'était pas à lui de rétablir le culte. Il pouvait exhorter ceux qui devaient rétablir le culte, parce que le culte, selon la parole de Dieu, eh bien, c'était par les sacrificateurs qui avaient des fonctions, chacun d'eux avait eu des fonctions données par Dieu qui devaient les accomplir. Puis nous autres aussi, on a besoin aujourd'hui de faire les choses selon ce que les dons. Parce que dans l'Église, on voit que le Saint-Esprit a donné des dons dans l'Église. Puis ces dons-là, c'est eux qui doivent être mis en évidence pour que l'Église puisse avancer. Vous savez, quand on prie pour quelqu'un qui parlait sur la prière une fois, puis il disait, quand on prie pour les frères et les sœurs, on dit un peu comme, ouais, Seigneur, ben Pierre, c'est un bon frère, tout ça, mais tu sais, il se met le pied dans la bouche des fois. Puis des fois, il fait des choses qui ne sont pas correctes. T'sais. Puis il dit, c'est pas comme ça qu'on prie. C'est dit, quand on a un avocat auprès du Père, l'avocat présente son client sous le meilleur jour. Quand on prie, si on priait pour nos frères et sœurs dans nos assemblées pour dire, Seigneur, regarde mon frère, il y a ce don-là, ma sœur, elle a ce don-là. Seigneur, fortifie-les. Donne-leur de développer leur don, Seigneur. Fortifie-les. Puis on a vraiment besoin de ce don-là, Seigneur. Fais en sorte. Puis, vous savez, si on regarde les frères et sœurs dans l'assemblée de cette façon-là, on va finir par les aimer parce qu'on les voit sur leur bonjour. Puis, qu'est-ce qui va arriver si leur don est développé avec la puissance du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui va arriver à l'assemblée? Mais ça va être une assemblée qui va voir un réveil. C'est important, ces choses-là. Mais on sait qu'eux, il y avait eu des avertissements de la part du Seigneur. Regardez au chapitre 36. Parce que au chapitre 36, les versets 15 et 16, il dit... Au verset 15, il dit, « L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonheur. » Quand ils ont commencé, vous savez, quand on s'en va sur l'autoroute, là, puis qu'on voit une sortie, qu'on prend la mauvaise sortie, puis surtout quand tu es dans une ville comme Montréal ou Atlanta ou New York, là, puis tu as pris une mauvaise sortie, là, ben là, c'est où tu vas te ramasser avec ça, là. Parce qu'il faut que tu retrouves ta façon de revenir, là. Puis ça arrive, hein, des fois, on connaît pas la ville, puis là, on voit l'autoroute, elle est là-bas, mais là, il faut faire toutes sortes de détours pour pouvoir retourner là. Il faut faire attention, pas prendre des mauvaises sorties. Mais il dit, de bonheur. Il voyait encore un peu de la réalité de ce que c'était le culte à l'Éternel qui était centré à Jérusalem, avec les sacrificateurs. Puis, de bonheur, donna de bonheur à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Regardez, il dit, mais ils se moquèrent. Ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles, ils se raillèrent de ses prophètes, et jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Puis le Seigneur a même dit, vous avez tué des prophètes, Dieu a envoyé des prophètes, puis il a envoyé vers les vignerons pour avoir le produit de la vigne. Puis en dernier, il a dit, ben là, je vais envoyer mon fils, au moins il va avoir de la révérence pour mon fils. Ben, ils l'ont jeté en dehors de la vigne, puis ils l'ont tué. Puis le Seigneur a constamment averti. Puis, il a averti, puis moi, je trouve, quand on lit Ésaïe, puis Jérémie, puis Ézéchiel, ben c'est dans le temps du déclin, là. On s'en va vers la captivité, puis dans la captivité. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a Jérémie, c'est un prophète de pleurs. Il pleurait, il intercédait auprès du peuple. Puis, ils disent à Jérémie, les choses que tu nous as dites au nom de l'Éternel, là, on les fera pas. On va désobéir. C'est triste, ces choses-là. Mais, quand on lit ces livres-là, Ésaïe, puis Jérémie, puis Ézéchiel, il y a quelque chose que je trouve moi vraiment merveilleux. À travers les jugements prononcés contre le peuple, puis même contre les nations, il y a toujours des mots d'encouragement. Puis je me dis, pourquoi? Pourquoi qu'il y a ces mots d'encouragement-là? C'est parce que dans le peuple, puis même dans les nations, il y avait toujours des cœurs attachés au Seigneur. On le voit quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il y avait des Siméons, des Annes, des Zacharie, des Joseph, des Marie, qui étaient là, les disciples qui ont reconnu le Seigneur Jésus, qui l'ont suivi, ils étaient dans le peuple, ils étaient attristés de ce qu'ils voyaient dans le peuple. Puis le Seigneur, il parle à eux autres. Il leur donne des paroles de réconfort. Il parle de restauration. Puis on sait qu'à travers le peuple d'Israël, il y a toujours eu un reste fidèle. Aujourd'hui, c'est des chrétiens. On les appelle des juifs messianiques. Mais dans la tribulation, il va y avoir un reste d'Israël, un tiers d'Israël. Puis il dit qu'ils vont, le Seigneur leur avait dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Puis un jour, ils vont le faire. Dans leur détresse intense, deux tiers d'Israël vont être détruits. Un tiers d'Israël, ils vont se tourner, parce que si leur Messie ne vient pas à ce moment-là, ils sont exterminés. Puis ils vont crier, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Puis quand il va venir, ils vont voir ses mains percées. Puis ils vont pleurer sur lui. Vous savez, j'étais à Jérusalem sur le mont des Oliviers, puis on regardait la montagne du Temple. Puis notre guide, c'était un juif, qui est un juif qui était patriote, pas religieux, mais un juif patriote. Puis il connaissait les Écritures, citait l'Ancien Testament, beaucoup le Nouveau Testament. Puis quand on était là, on regardait la porte de l'Est, parce que c'est là que le prince va rentrer pour purifier le Temple. Puis j'ai dit, ils ne croient pas que leur Messie est déjà venu, hein? Ben, il dit, il y en a qui disent qu'il est revenu, puis qu'il est déjà venu, puis il y en a qui disent qu'il n'est pas venu. Il dit, quand il va venir, on va lui demander. Ben, j'ai dit, tu n'auras pas besoin de lui demander. Il dit, non, comment ça? Ben, j'ai dit, quand tu vas voir ses mains percées, là, tu vas voir qu'il était déjà venu, qu'il était venu mourir sur la croix pour vos péchés, puis pour les nôtres. Puis on a continué. Mais c'est ça, il les avait avertis, puis avertis constamment. Ben, tout l'Ancien Testament, presque c'est toujours des avertissements. Des avertissements. Il les avertissait, puis ils se sont moqués. Ils se sont moqués d'eux, ils n'ont pas écouté les avertissements. Mais, comme j'ai dit, il y avait toujours un reste fidèle. Puis le Seigneur parlait à ce reste-là. Puis le Seigneur donnait de l'encouragement. J'espère que nous autres, on est un reste fidèle. Il faut se juger devant le Seigneur. Est-ce qu'on est un reste fidèle? Est-ce qu'on reste attaché à la parole de Dieu? Est-ce qu'on reste attaché au Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés? Le berger qui rassemble ses brebis? Ben, j'espère que oui. Moi, regarde, il y a toutes sortes de doctrines qu'on parle, puis toutes sortes d'idées d'hommes. Ben, regarde, ayez vos idées. Moi, je demeure sur la personne du Seigneur Jésus. Quand, depuis que j'ai été sauvé, quand je me suis fait baptiser, ça fait 44 ans de ça, on a chanté un cantique. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Mais je n'ai pas l'intention de laisser. Parce que c'est par sa grâce qu'on est debout. Si on est debout, c'est parce que le Seigneur nous dit, que mon frère en parlait ce matin, que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Mais moi, je veux rester debout. Puis la seule façon que je connais de pouvoir rester debout, c'est de garder les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il y a des hommes avec des grandes idées, puis des chefs religieux, il y en a plein la terre. Ils meurent, puis ils sont mis au tombeau. Mais celui que je suis, moi, il est dans le ciel, parce qu'il est ressuscité des morts, puis il est allé à la droite du Père. Donc, c'est important de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous sommes nés comme ce reste fidèle. On va être attristé par la situation, puis on va garder les yeux sur le Seigneur Jésus-Christ. Dans Psaume 12, 2, il dit, « Sauve éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. » Il y avait un monsieur qui venait à l'assemblée, mais il était pas en règle avec le Seigneur. Puis à un moment donné, bien, on parlait souvent, puis là j'ai demandé ça, j'ai dit un verset que je voudrais te partager. Ça fait que là, il dit, oui. Là, il vient, on ouvre la parole. Psaume 12, 2, j'ai dit, « Sauve éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. » Il a viré de bord, puis s'est en allé dans son char. Ben, c'est comme ça qu'on répond à la parole de Dieu. C'est, les hommes pieux s'en vont. Où ce qui sont les hommes pieux? Ce qui sont les hommes qui sont forts, comme Josué et Caleb, qui sont prêts? Ils disent, oui, ils sont grands, mais notre Dieu est plus grand qu'eux autres. Ils sont plus grands que nous autres, mais notre Dieu est plus grand qu'eux autres. Puis avec lui, on va y aller, puis on va les vaincre. C'est ça qui est important. Dans le psaume 11, au verset 3, il dit, « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? » J'espère qu'on peut dire qu'on cherche la façon que le Seigneur veut qu'on marche. Dans Proverbe 10, 25, il dit, « Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternel. » Donc, c'est quoi notre fondement? Est-ce que notre fondement est éternel ou est-ce qu'il va passer? Vous savez, quand le Seigneur va revenir, est-ce qu'il va nous trouver veillants sur la terre? Le Seigneur Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ben, j'espère que moi, il va me trouver avec la foi. J'espère que moi, il va me trouver par sa grâce, le suivant, puis ayant les regards sur lui. C'est important. Regardez ce qu'il fait, lui, Ézéchias. Ézéchias, il est comme ça, lui. Autour de lui, là, ça va pas bien. Son père, il était mort. Fait que des fois, là, c'est dur de faire face à ses parents. Là. Gédéon, lui, a fallu qu'avant d'aller travailler pour le Seigneur, qu'il abatte le pieu sacré de son père. Puis là, son père, les gens du village étaient fâchés. C'est qui a fait ça? Ils ont dit, c'est Gédéon. Là, ils ont dit, on va le tuer, tu sais. Ils ont dit ça à son père, puis son père a dit non, si le pieu sacré, il n'a pas été capable de se défendre, on va le laisser faire, il n'était pas assez bon. Mais c'est ça, mais il faut prendre position pour le Seigneur. C'est important qu'on prenne position pour le Seigneur. Regardez lui qu'est-ce qu'il a fait. Au verset 3, dans 2 Chroniques 29, il dit, « La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. » Son père les avait fermées. Puis lui, il les a ouverts. Pourquoi? Ben, c'est l'accès à Dieu. Son père avait fermé l'accès à Dieu au peuple. Il les avait fermés complètement, il était barricadé, il avait tout enlevé ce qu'il y avait dans le temple. Il les avait enlevés pour le donner au roi de Syrie pour qu'il vienne en aide, puis ça n'y a été d'aucun secours. Mais lui, il rouvre les portes de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il fait de la maison de l'Éternel? Ben, il rétablit ici la connexion avec le peuple sa connexion avec son Dieu. Mais il les a réparées aussi. Oui, c'est bien beau de les rouvrir, mais il faut qu'ils soient accessibles, ces portes-là. Tu sais, quand il y a des murailles, c'est pour protéger. Mais les portes, c'est quoi? Les portes, c'est l'accès. C'est les portes, ils s'ouvrent pour qu'on puisse accéder. Ben, il rouvre les portes, puis il les arrange pour qu'ils se trouvent facilement. Pour que ceux qui veulent entrer, Seigneur, vous savez, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le Seigneur, il nous invite à lui. Il y a des portes, puis ces portes-là, on ne les ferme pas, on les rouvre, on les répare pour qu'elles soient accessibles. Quand on a besoin, on va dans la présence de Dieu. Ben, allons-y souvent. Vous savez, le Seigneur, il ne se tanne pas de notre présence. Il veut qu'on soit dans sa présence. Il a réparé les portes. Puis, après ça, il dit, il fit venir les sacrificateurs et les lévites qu'il assembla dans la place orientale et il leur dit, écoutez-moi, lévites, maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Dans le sanctuaire, il y avait des choses impures. Ben, faut faire attention, vous savez, des fois, notre cœur, là, c'est le sanctuaire du Seigneur. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des choses impures dans le sanctuaire? Mais avant de commencer à nettoyer la maison de l'Éternel, ben, faut nettoyer ici, là. Il a dit au sacrificateur, sanctifiez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire, sanctifier? Vous savez, il y a deux aspects à la sanctification. Un aspect, c'est négatif, c'est de se séparer de ce qui est mal. Puis l'aspect positif de la sanctification, c'est de s'unir au Seigneur, au bien. Donc, c'est vraiment la sanctification, c'est d'enlever ce qui est mal, puis chercher ce qui est bien. Mais avant de pouvoir nettoyer la maison, c'est bien beau de nettoyer la maison, mais si j'ai les mains sales, je vais salir tout autour de moi. Donc, la sanctification commence par nous. Puis c'est pour ça qu'il donne un commandement ici au sacrificateur. Lui, il était le roi, mais il savait, parce que Ozias, qui était avant lui, il était roi aussi, puis quand il est devenu grand, là, il a pensé, ben regarde, c'est moi le roi, je peux aller puis offrir l'encens dans le temple. Puis les sacrificateurs, ils ont dit, non, Ozias, fais pas ça, t'as pas le droit, puis c'est moi le roi. Et à un moment donné, il a été frappé de la lèpre au front. Puis là, à ce moment-là, là, les sacrificateurs, ils l'ont pris, puis lui aussi s'est dépêché à sortir. L'Éternel l'avait frappé. Mais Ézéchias aussi, il les exhorte. Il dit, c'est vous autres que le Seigneur a mis en place. Sanctifiez-vous. Ça veut dire qu'il ne se sanctifiait pas auparavant. Sanctifiez-vous, puis après ça, sanctifiez la maison. Enlevez ce qui est impur, puis nettoyez-le pour que le culte à l'Éternel puisse être rétabli. On en a besoin. Il faut qu'on ait ce culte à l'Éternel. Puis c'est ça qu'ils ont fait ici. C'est vraiment important. Il ouvre la porte, puis il les répare. Puis mais on voit qu'il y a une chose qui est dit là-dedans. Regardez au verset 2. On dit qu'il ne faut pas regarder aux traditions, hein. Mais il dit ici, « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait David, son père. » Ah, il se souvient, les pères avant lui, ils avaient mal agi. Mais il se souvient que dans le temps de David, le culte à l'Éternel était là. Puis il prend, c'est pour ça que nos traditions, il faut remonter à la source. Il faut aller les chercher d'où ils viennent. Puis dans le temps de David était un homme qui avait un cœur selon l'Éternel. Puis lui, c'est lui qui avait construit, sous la direction du Seigneur, il avait préparé pour la construction du temple qui a été construit par son fils, qui est un type du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui construit l'Église. Il dit, je construirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est le Seigneur qui est en train de construire son Église. Puis, mais il avait construit, c'est que lui, il retourne à la source. Des instructions de David données à Salomon, qui Salomon était un temps glorieux. Dans le temps de Salomon, ce n'est pas les ennemis qui régnaient sur Juda, mais c'est Juda qui régnait sur les alentours. Au point que même la reine de Séba avait voulu venir à Jérusalem. Elle avait entendu parler de Salomon, puis de la gloire de son règne. Puis elle dit, quand elle est venue, elle dit, la renommée là, que j'avais eue, c'est plus que qu'est-ce que j'avais entendu dire. J'en avais pas connu la moitié. Ça, c'est important, il a reconstruit ces choses-là. Il faut faire attention. Vous savez, aujourd'hui, Oui, on nous propose de construire. Puis des fois, mais c'est plus l'écuménisme qu'on veut construire. Ah oui, on a tous le même Dieu. On sert tous de des façons différentes, mais on va tous se joindre ensemble. Mais ça, c'est pas. On me souviens, au début de ma vie chrétienne, on nous disait de faire attention à l'écuménisme. On était mis en garde contre l'écuménisme. Aujourd'hui, on est exhorté à se joindre. Puis c'est vraiment ça, c'est pas la construction que le Seigneur veut. Ça ne va pas. C'est toutes sortes d'idées sous un même toit. Ça, c'est pas de l'unité. Non. L'unité de l'esprit qui nous est parlé dans la parole de Dieu, c'est centré sur la personne du Seigneur Jésus-Christ, les instructions, parce que l'esprit de Dieu va toujours nous révéler le Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment important. Vous savez, dernièrement, là, il y a quelque chose que j'ai vu sur l'Internet, on voit tout, là. On voit toutes sortes de choses, des bonnes, des mauvaises. Mais, vous savez, il y a une plateforme technologique aujourd'hui, que ça s'appelle, c'est avec l'intelligence artificielle. Puis, ils disent que c'est une plateforme technologique pour réunir tous les écosystèmes de foi. C'est même pas parler du Seigneur, là. C'est juste la foi. Puis ça s'en vient, il y a beaucoup d'églises qui se joignent à ça. C'est extraordinaire. Parce que c'est toutes des ressources, là. C'est l'intelligence artificielle. Imaginez-vous, tu veux prêcher un message, tu lui demandes sur la résurrection. T'as ton message, va le prêcher. C'est pas la parole de Dieu, là. C'est pas de passer le temps dans la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de chercher ce que la parole de Dieu dit, là. Fait que, vous savez, moi, je vois là que bientôt, là, c'est ça qu'on va avoir à faire face, si le Seigneur ne revient pas. Là, à peu près un an, j'entendais à la radio, il disait, c'était quelqu'un qui parlait de l'intelligence artificielle. Puis il disait, les gens ont prié un Dieu qui n'existe pas, en parlant du Dieu de la Bible. Hein? Il dit, il n'existe pas, j'y ai parlé ce matin. Mais il parlait d'un Dieu qui n'existait pas. Mais il dit, celui-là, on sait qu'il existe. C'est nous autres qui l'a fait. C'est l'homme qui a fait un Dieu, puis là, on va le suivre. Puis, là, à peu près un mois et demi, deux mois, je les entendais dire, ils étaient tout excités pour dire, « Hey, il y a une nouvelle religion qui vient de commencer cette semaine. » Puis on dit, c'est l'intelligence artificielle. Vous savez, on a besoin, nous autres, de la sagesse humaine? Non, c'est la sagesse de Dieu. Puis la sagesse de Dieu, où est-ce qu'elle se trouve? Dans la parole de Dieu. Puis qui nous l'enseigne? C'est l'Esprit de Dieu. Fait que retournons aux sources. Retournons où ce que les choses sont vraies. Des choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Puis c'est ça, moi, c'est ces traditions-là que je veux demeurer avec. Puis on voit que dans deux chroniques, là, en suivant ça, ça les a amenés à la Pâque. À la Pâque, puis ils ont célébré la Pâque dans le chapitre 30 au verset 1, il dit « Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Éphraïm et à Manassé pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem. Célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Il y en a qui se sont moqués de ça. Puis vous savez, si on veut retourner à la simplicité de la parole de Dieu, moi je m'attends à ça qu'on va être, on va se moquer. Ils vont se moquer de nous autres. Le Seigneur a dit « Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Puis si on veut retourner à la source, là, il y en a qui vont se moquer de nous autres parce qu'ils vont dire « ça ne marche pas votre affaire. » Nous autres, on a l'affaire, ça marche. Mais moi, je ne m'attends pas à ça. Mais à travers ces gens-là, il y en a d'autres qui, de partout des autres tribus d'Israël, de Manassé, d'Éphraïm, il y en a qui ont écouté. Puis ils sont retournés à Jérusalem. Puis quand ils sont retournés à Jérusalem, je ne le dirai pas à cause du temps, mais quand ils sont retournés à Jérusalem, là, ils étaient dans une grande joie. Parce que là, ils célébraient la Pâque, qui parle de notre rédemption, l'agneau qui a été immolé pour nos péchés. Puis, ils ont célébré la Pâque avec une grande joie, puis même, ils ont décidé de continuer une autre semaine de plus. Parce que c'était une semaine, ils ont continué encore. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait après ça? Vous lirez dans deux chroniques au chapitre 30. Qu'est-ce qui est arrivé après ça? Ils ont reparti vers leur ville. Puis, en s'en allant, ils enlevaient les idoles, puis les hauts lieux, puis ils nettoyaient tout ça, les autres aussi, parce qu'ils s'étaient sanctifiés. Puis ils sont retournés. C'est ça qui arrive avec un réveil. Un réveil, ça commence à quelque part, puis ceux qui sont dans le réveil, ça se répand comme une explosion. Puis c'est ça qui est important, c'est ça qu'on cherche devant le Seigneur. Puis c'est pas nous autres qui va le faire. c'est le Seigneur, quand on va se tourner vers lui, quand on va le chercher selon les principes tout simples du Nouveau Testament, comme il nous a... C'est lui, c'est son Église. Puis, quand il vient dans son Église, est-ce qu'il se sent chez lui? Il y avait quelqu'un qui m'avait dit une fois, il dit, quelqu'un lui avait posé la question, si le Seigneur arrivait en ville un dimanche matin, avec qui il se réunirait? C'est bien facile de dire c'est avec nous autres. Mais moi, j'ai repensé à ça, puis je me suis dit, la question n'est pas bien posée. Est-ce que nous autres, on se réunit avec lui? C'est pas nous autres le standard. C'est lui. Fait qu'on, lui, on ne changera pas. Seigneur Jésus, c'est lui qui est la tête. C'est lui qui est le standard. C'est moi que je m'adapte à lui. Lui, il ne s'adapte pas. Parce que ce ne serait pas bon s'il s'adaptait. C'est lui le standard. Puis moi, c'est avec lui que je veux marcher. J'espère qu'on peut tous dire Amen à ça.